Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. Nous sommes vendredi 8 juin 2018. Vous écoutez Voix de service magazine. Encore une fois, cette semaine, je suis presque seule. Alors, mes collègues Hélène Bédard et Catherine Emmanuel-Brunet sont absentes, mais devraient être de retour la semaine prochaine. Je suis quand même en compagnie d'une petite plante piquante que le merveilleux Mathieu m'a donné ce matin pour rendre l'émission, je sais pas, plus...
Pour ne pas que vous vous sentiez seul.
Merci Mathieu, Mathieu que je salue, alors qu'il va m'accompagner évidemment de façon très professionnelle pendant toute cette heure. Que nous allons commencer en parlant de commotion cérébrale. Oui. Ensuite, dans un tout autre ordre d'idées, on va parler des coraux. Hein, le corail, coraux. Et puis, sûrement qu'on va revenir avec ces questions qu'on pose au Dr Google et dont on a commencé à parler la semaine dernière et qui sont rapportées dans Québec Science, puisqu'il y a de nombreux sujets intéressants. Alors, bonne émission à tout le monde! Alors donc, comme je vous l'ai dit, on commence en parlant de commotion cérébrale. Il y a une chercheuse qui s'appelle Myriam Beauchamp qui en a fait son champ de recherche et on en parle dans Québec Science, juin 2018, en fait dans la section « Chercheurs en vedette ». L'article s'intitule « L'impact qui change la vie des bouts de chou ». Le développement social des tout-petits victimes de commotion cérébrale pourrait-il se trouver à jamais affecté par ce genre d'incident? La chercheure Myriam Beauchamp veut le savoir. Myriam Beauchamp doit sa carrière en recherche au neurologue Oliver Sacks, du moins en partie. Comme tant d'autres, elle a découvert, à travers les écrits de ce vulgarisateur scientifique, notamment l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, les effets spectaculaires que de simples lésions cérébrales peuvent avoir sur le comportement. J'étais fascinée par la capacité d'Oliver Sacks à faire le pont entre l'anecdotique et la science, raconte-t-elle. Dans son laboratoire de neuropsychologie développementale, ABC, au centre de recherche du Centre hospitalier universitaire CHU Sainte-Justine, la neuropsychologue pédiatrique étudie les conséquences néfastes d'atteinte au cerveau chez les tout-petits. Une question de recherche, la turlupine, tout particulièrement depuis qu'elle a commencé à s'intéresser au sujet il y a maintenant 10 ans. Comment les commotions cérébrales et les traumatismes crânio-cérébraux, qu'on appelle les TCC, influencent-ils le développement social des nourrissons, des enfants et des adolescents? Les enfants en bas âge, victimes d'un TCC, ne se plaignent pas qu'ils souffrent de problèmes de mémoire ou qu'ils ont de mauvaises notes à l'école. Ce sont là des préoccupations d'adultes. Ils rapportent plutôt qu'ils ont moins d'amis, qu'ils sont exclus d'activités sociales et qu'ils ont de la difficulté à entretenir des relations interpersonnelles de belle qualité, explique Mme Beauchamp, qui est également professeure au département de psychologie de l'Université de Montréal. Cette avenue de recherche originale a d'ailleurs valu à Myriam Beauchamp le prix Relève scientifique lors de la plus récente cérémonie des prix du Québec en novembre 2017. Créée pour souligner le 40e anniversaire des prix du Québec, cet honneur est remis à une personnalité de 40 ans et moins s'étant illustrée en science. Tous les jours, de 2 à 8 enfants ayant eu un impact à la tête se présentent à l'urgence du CHU Sainte-Justine. De ce nombre, environ le tiers reçoivent un diagnostic de TCC, selon un rapport de l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux paru en février dernier. Toujours selon ce même rapport, 83% des TCC sont légers, autre terme pour désigner les commotions cérébrales. Parmi ceux-ci, plus de la moitié concernent des enfants de moins de 5 ans, le groupe d'âge qui intéresse surtout Myriam Beauchamp. Les causes de ces impacts sont nombreuses, depuis le bambin qui se frappe la tête en tombant de la table allongée jusqu'à l'intrépide qui déboule les escaliers. La vaste majorité des jeunes victimes de commotions cérébrales récupèrent heureusement de l'événement dans un délai de 3 mois et n'en gardent pas de handicap cognitif important. Chez les autres, Le pronostic est cependant plus sombre, et ce, en dépit de leur âge tendre. On a longtemps cru qu'un cerveau en plein développement est malléable, donc qu'il récupère plus vite d'un choc. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il peut subir des séquelles importantes qui vont ralentir les apprentissages de l'enfant et modifier sa trajectoire de vie, nuance la chercheuse. Si les troubles cognitifs n'apparaissent que dans les cas les plus graves, il en va différemment des conséquences sociales. Des suites se manifestent et persistent pendant plusieurs mois, tant dans les cas légers de TCC que pour les cas plus lourds. Dans une étude publiée en 2016 par la revue Journal of Neuropsychology, l'équipe de Myriam Beauchamp rapporte en effet que les enfants qui subissent une commotion cérébrale ont de moins bonnes interactions avec leurs parents 6 mois après l'incident. L'étude a été menée auprès de plus de 130 enfants âgés de 18 mois à 5 ans. En moyenne, ceux ayant subi une commotion cérébrale ont démontré l'avantage de comportements négatifs que leur vis-à-vis sain, même si certains enfants s'en sortent sans problème. Cette conclusion n'est pas anodine. De toutes les relations qu'un enfant entretient, celle avec ses parents est de loin la plus importante, car elle présage ses compétences sociales futures. Nous voulons maintenant savoir si le phénomène persiste au fil du temps ou s'il s'amoindrit. Aussi, nous voulons mieux comprendre les facteurs qui prédisent une baisse de la qualité des interactions sociales. Est-ce à cause de l'enfant, du parent, de la sévérité de la blessure? Nous l'ignorons pour l'instant, souligne-t-elle. À plus long terme, ces travaux pourraient mener à la mise sur pied de programmes d'intervention pour les enfants victimes de commotions cérébrales. De manière plus fondamentale, ils aident déjà les professionnels de la santé à calmer les inquiétudes des parents de jeunes victimes d'impact à la tête, fait valoir Jocelyn Gravel, urgentologue au CHU Sainte-Justine et proche collaborateur de Myriam Beauchamp. Il se charge, entre autres, du recrutement de ces sujets. Avant que Myriam commence à travailler sur ce projet, nous n'avions pas de réponse à fournir aux parents. La littérature considérait les enfants comme de petits adultes, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Selon lui, c'est là l'originalité des travaux de sa collègue. Elle n'est pas carriériste pour 2 sous et veut vraiment le bien de ses patients. Je ne suis pas surpris qu'on lui ait décerné un prix du Québec, conclut M. Gravel. Alors donc, cette entrevue menée par Maxime Bilodeau avec la chercheure Myriam Beauchamp est parue dans Québec Science, juin 2018.
Merci beaucoup, and this is Ladies for Dish, Alex.
Change or did I?
Savez-vous, ma chère Francine, qu'on nous écoute directement ou directement ou en direct de Hanover en Allemagne? C'était une chanson, une demande spéciale en fait, de Alex Kruger qui écoute la radio avec Julia.
Ah, vous m'impressionnez. En même temps, vous vous mettez un peu de pression, comme on dit.
Mais non.
C'est toujours impressionnant quand on est rendu à l'international. Écoutez.
Ça fait des mois qu'on nous écoute de l'Allemagne, je peux vous garantir.
Bon, mais c'est bien. Alors, ça ne nous empêchera pas de mettre en valeur nos Québécois.
Absolument.
Alors, donc, dans le deuxième article, qui est toujours un article de nature scientifique, on va parler d'une Québécoise qui est au chevet des coraux. Le réchauffement de la planète menace les récifs de corail. Ils pâtissent des coups de chaleur et de l'acidification des mers qui les désagrègent. La biologiste québécoise Isabelle Côté cherche comment venir à leur rescousse. C'est Mathieu Perrault qui signe un article à ce sujet dans la Presse Plus du 3 juin 2018. À l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, Isabelle Côté est spécialiste des coraux. En mars, elle expliquait dans la prestigieuse revue Science comment l'homme peut les aider à survivre au changement climatique. Alors Mathieu Perrault s'est entretenu avec elle. Depuis quand travaillez-vous sur l'adaptation des coraux au changement climatique? J'étudie les récifs coralliens depuis plus de 30 ans, mais depuis une dizaine d'années, je m'intéresse plus spécifiquement à la résilience des écosystèmes marins. Quelles sont les avancées récentes dans le domaine? Jusqu'à tout récemment, on parlait surtout de récupération. Comment accélérer le processus de convalescence des coraux après les coups de chaleur et les grosses tempêtes? Il est de plus en plus évident qu'on n'a plus le temps de faire ça. Tous les phénomènes qui perturbent les écosystèmes marins, et les récifs coralliens en particulier, surviennent de plus en plus fréquemment. Avant, on avait une dizaine d'années entre les grands ouragans et les événements El Niño qui endommagent les récifs. Le délai est aujourd'hui plus court. Dans les Antilles, il se passait 15 ans entre deux gros ouragans. Maintenant, c'est tous les 6 ans. Les coups de chaleur dans le Pacifique, c'était tous les 25 ou 30 ans. Maintenant, c'est tous les 6 ans. Il y en a eu dans la Grande Barrière de Corail, en Australie, en 1998 et en 2000, puis en 2016 et en 2017. Ce n'est pas assez long pour que les coraux se rétablissent. On commence à viser davantage la résistance plutôt que la récupération. Quelles sont les différentes possibilités pour améliorer la résistance des coraux? Il y a deux approches. On peut identifier certaines populations de coraux naturellement plus résistants. Il y a des endroits dans le monde, comme dans les Samoa, c'est dans le Pacifique Sud, pour ceux qui ne le sauraient pas comme moi, où des coraux complètement en santé habitent des lagons où l'eau est à 32, 33, 34 degrés Celsius. Normalement, les coraux à cette température blanchissent. Il y a évidemment une sélection naturelle qui a eu lieu. Ce sont des coraux exposés naturellement à de grandes variations de température. On essaie de comprendre la génétique de cette résistance. Une autre question de la presse à Mme Côté, vise-t-on à modifier génétiquement les coraux avec la biotechnologie, à créer des coraux OGM? Pas du tout. On veut croiser les espèces de manière traditionnelle pour accélérer la sélection naturelle. Il y a des gens qui parlent d'OGM, mais c'est une minorité. Il y a trop de points inconnus avec cette technologie pour une utilisation à l'échelle des écosystèmes. Et l'autre approche? L'objectif serait de créer des refuges. Environ 3% des 3800 récifs coralliens sont moins susceptibles d'être touchés par les coups de chaleur et les épidémies en raison de leur situation protégée. Si on encourage leur survie, ils peuvent continuer à repeupler les récifs coralliens endommagés qui les entourent. Peut-on également rendre les coraux plus résistants aux tempêtes? Oui, mais ça rend les récifs moins riches en espèces. La résistance aux phénomènes physiques dépend beaucoup de la forme des coraux. Ceux qui sont en forme d'arbre se brisent très facilement, mais repoussent plus vite après un typhon ou un ouragan. Ceux qui sont plus plats sont plus résistants aux vagues. Peut-on contrer l'augmentation de l'acidité des mers qui découle de la hausse de la concentration de CO2 dans l'atmosphère et les océans? Le gros éléphant dans la pièce, ce sont les émissions de CO2. On peut essayer de trouver des super coraux très résistants, protéger les coraux, mais la seule chose qui va vraiment assurer leur conservation pour les décennies à venir, c'est le contrôle des émissions. Où travaillez-vous sur les coraux?
J'ai travaillé un peu dans la mer Rouge, autre endroit où l'eau est très chaude, et en Polynésie française, mais surtout dans les Antilles. Alors, une autre espèce, si je peux dire, à protéger, dont nous parle la biologiste Isabelle Côté, une spécialiste en matière de coraux, qui a été interviewée par Mathieu Perrault dans la presse du 3 juin.
Alors Mathieu, on va revenir avec Google.
Ah, docteur Google.
Oui, c'est ça. Alors donc, on se rappellera la semaine dernière, pour ceux qui étaient avec nous, que nous avons commencé, en fait, à revenir sur les 50 questions que vous posez à Google et qui sont répertoriées dans Québec Science, dans la livraison de juin 2018, avec des réponses qui ne sont pas toujours celles que nous donne Google. Alors, je vais commencer par une qui, là, est très populaire, semble-t-il. Comment trouver un médecin de famille? S'il y a une question spécifique au Québec dans la liste, c'est bien celle-ci. Et pour cause, au début de l'année 2018, plus de un Québécois sur cinq n'avait toujours pas de médecin de famille. Ce taux d'orphelin grimpait même à 35 % à Montréal. Pourtant, en avril 2016, le ministre de la Santé et des Services sociaux a lancé le guichet d'accès à un médecin de famille, le fameux GAMF, une banque de données unique hébergée à la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, dans le but de simplifier l'inscription des personnes sans médecin de famille et de faciliter leur prise en charge. Rappelle Marie-Claude Lacasse, qui est relationniste au ministère, justement. S'inscrire au guichet est donc une bonne première étape, mais elle n'est que le début du périple et n'offre aucune garantie. Selon les régions et l'état de santé du patient, le temps d'attente moyen s'échelonne de 99 jours à Laval à 416 jours en Abitibi-Témiscamingue. Cela dit, dans certaines régions ou quartiers, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, certains résidents attendent depuis 2 ans. On est donc bien loin de la cible que s'était initialement fixée le ministre de la Santé Gaétan Barrette. 30 jours pour les personnes les plus vulnérables, 90 jours pour celles en santé. Il est également possible pour une personne de chercher un médecin de famille par elle-même, sans s'inscrire au fameux GAMF. Cette personne peut contacter les cliniques médicales ou groupes de médecins de médecine familiale situés près de chez elle pour vérifier s'ils acceptent de nouveaux patients, rappelle Marie-Claude Lacasse. Il ne reste plus ensuite qu'à croiser les doigts. Effectivement, croisons-les pour arriver et pour atteindre notre but. Alors, dans un autre ordre d'idées, mais une question qui est aussi très, très populaire, comment mieux dormir? Vous n'êtes pas seul à vous le demander. Selon les résultats de l'enquête canadienne sur les mesures de la santé pour la période allant de 2007 à 2013, 43 % des hommes et 55 % des femmes de 18 à 64 ans ont déclaré avoir de la difficulté à trouver le sommeil ou à rester endormi, comme dans plusieurs sociétés occidentales. Un sommeil de courte durée et de piètre qualité est relativement fréquent. En effet,
environ le tiers des personnes interrogées dormaient moins que le nombre recommandé d'heures, soit entre 7 et 9 heures, peut-on lire dans le document. Cette carence ne devrait pourtant pas être sous-estimée. Le manque de repos est associé à un plus faible système immunitaire, une mémoire moins efficace et une hausse des risques d'obésité et de diabète, entre autres. Dormir, c'est du sérieux. Selon Mélanie Vendette, qui est neuropsychologue clinicienne à l'hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, on peut améliorer la qualité du sommeil en instaurant une routine avant d'aller au lit, en effectuant quelques changements à ses habitudes de vie. Voilà quelques exemples. Il faut éviter les activités physiques intenses ou le bain trop chaud près de l'heure du coucher. Cela stimule notre métabolisme et élève la température du corps, un état physiologique qui n'est pas favorable au sommeil. En soirée, on privilégie plutôt des activités calmes ou de relaxation, explique-t-elle. La même routine, quant à elle, aide et conditionne le cerveau qui se prépare au dodo. Écran, ordinateur, tablette et cellulaire sont les ennemis de Morphée. La lumière bleutée provenant de l'écran inhibe la production de mélatonine, l'hormone du soleil, au niveau du cerveau. On ferme ces appareils au moins une heure avant le coucher, suggère Mélanie Vendette. Elle recommande même de laisser le cellulaire dans une autre pièce que la chambre. Insomnie. Le phénomène d'insomnie est exacerbé par l'anxiété. Il est important d'évacuer le stress pendant la journée, car lorsqu'on est dans le lit, le cerveau a le temps de penser et reste ainsi actif, signale Mélanie Vendette. Comment dompter votre cerveau? Le neuropsychologue propose des techniques de relaxation pour chasser les préoccupations et de suivre un horaire de sommeil constant. Si l'heure du coucher varie beaucoup, on risque d'avoir un sommeil plus fragile, dit-elle. Est-ce que vous avez des problèmes de sommeil, vous, Mathieu?
Non, pas du, ben, non, pas
non,
du
non.
tout.
Non, non. Alors, vous êtes en super dormeur. Forme aujourd'hui, pas de problème de mémoire.
Absolument pas.
Bon. Alors, donc, à ce moment-là, vous allez être prête pour enchaîner, si je comprends bien, avec sûrement une belle pièce musicale.
Mieux que partout ailleurs, au jardin de mon cœur, une petite fleur. Cette fleur, plus jolie qu'un bouquet, elle le garde en secret. Tous mes rêves d'enfant, l'amour de mes parents, et tous ces clairs matins, faits d'heureux souvenirs lointains. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé. Dans mon cœur, tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Petite fleur.
Jean Leloup, pardon, Jean Leloup et sa chanson, une interprétation de Petite Fleur.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, pour terminer cette première partie, comment soigner une brûlure? Hein, ça nous arrive tous à un moment donné en cuisinant. On aime cuisiner, les Québécois. Ne perdez pas de temps. Dans les 20 minutes suivant la brûlure, faites couler de l'eau fraîche sur la région touchée durant 5 à 30 minutes. Oh là là!
Vous pouvez également immerger la surface touchée si c'est possible. L'eau ne doit pas être glacée, cela pourrait causer une vasoconstriction et aggraver la lésion. Nettoyez ensuite la peau avec un savon doux sans frotter. Privilégiez plutôt le tamponnage. Pour éviter les infections, vous pouvez appliquer un onguent antibiotique qu'on retrouve en pharmacie, surtout si votre peau semble endommagée. Selon la gravité de la brûlure, il est recommandé de poser un pansement. Dernier conseil, hydratez votre peau une fois la brûlure guérie. Une hydratation avec une crème permettra à votre peau de retrouver toutes ses couches et ses composantes naturelles en minimisant l'apparence des cicatrices. Alors voilà, nous terminons la première partie. En deuxième partie, on parle de start-up. On revient avec le docteur Google et aussi probablement de nouvelles applications en technologie puisqu'on n'en a pas parlé dans la première partie. À plus tard!
C'était la zone et tout ce qui s'ensuit, des masures, des taudis insolites, des ruines pas romaines pour un sou. Quant à la faune habitant là-dessous, c'était la fine fleur, c'était l'élite. Une fleur, l'élite du pavé, des besogneux, des gueux, des réprouvés, des mendiants rivalisant de tard, des chevaux de retour, des propres à rien, ainsi qu'un croque-note, un musicien, une épave accrochée à sa guitare. Adoptée par ce beau monde attendri, une petite fée avait fleuri au milieu de toute cette bassesse. Comme on l'avait trouvée près du ruisseau, abandonnée en un somptueux berceau, à tout hasard on l'appelait princesse. Or un soir, Dieu du ciel, protégez-nous. La voilà qui grimpe sur les genoux, du croque-note et doucement soupire, en rougissant quand même un petit peu. C'est toi que j'aime et si tu veux tu peux m'embrasser sur la bouche et même pire. Princesse, arrête un peu ton tir, j'ai pas tellement l'étoffe du satyre. Tu as 13 ans, j'en ai 30 qui sonnent. Grosse différence, je ne suis pas chaud pour tâter la paille humide du cachot. Mais croque-note, je dirai rien à personne. Pas fit-il d'un ton railleur. D'abord tu n'es pas mon genre et d'ailleurs mon cœur est déjà pris par une grande. Alors princesse est partie en courant. Alors princesse est partie en pleurant. Chagrine qu'on ait boudé son offrande. Détournement de mine, le croquenot au matin de bonheur, à l'anglaise a filé dans la charrette, des chiffonniers en grattant sa guitare, passant par là quelques 20 ans plus tard, il a le sentiment qu'il le regrette. Le sentiment qu'il le regrette.
Chanson de Georges Brassens, ce que chantait Michel Rivard. Oups, Michel Rivard.
Merci beaucoup, Mathieu Tessier, à la régie,
plaisir.
Pour cette belle pièce musicale. J'ai même vu notre petit cactus se frétiller. Je ne sais pas
c'est
si ça frétille un cactus, mais en tout cas...
Si vous l'avez vu.
Oui. Je me semble qu'il exprimait une joie certaine à l'écoute de cette pièce. Deuxième partie de Voix de service magazine, l'émission du vendredi 8 juin 2018, Francine Forget au micro. Alors, nous allons commencer cette deuxième partie en, je ne sais pas si on déboulonne un mythe, mais en tout cas, dans Le Devoir, on appelle ça le mythe du start-up. En fait, Le Devoir a fait un balado sur l'entrepreneuriat et ils en parlent aussi de temps à autre par la publication d'articles. Et c'était le cas le 7 juin 2018, Carl Rettino-Paraselli a fait un article sur les sacrifices dont on ne parle presque pas pour ceux qui ont le courage de se lancer dans cette grande aventure. Pour découvrir la face cachée du monde des entreprises en démarrage, Le Devoir présente le mythe start-up, un balado qui franchit chacune des étapes du véritable parcours d'un entrepreneur, ici à travers l'histoire du cofondateur de Clinia.ca, Simon Bédard. Dans le 6e et dernier épisode diffusé jeudi, les sacrifices qui se cachent derrière les histoires romancées. À l'époque où il travaillait chez L'Oréal Canada, Simon Bédard a goûté à la vie d'un salarié ordinaire, au salaire garanti, à l'horaire stable, aux avantages sociaux. Lorsqu'il a choisi de se lancer tête première dans le monde de l'entrepreneuriat, il savait qu'il allait devoir mettre une croix sur certains acquis, mais il n'aurait jamais pu prévoir que sa vie basculerait à ce point. Tu n'as aucune idée des sacrifices que tu vas avoir à faire lorsque tu te lances en affaires. Tu peux le lire, tu peux en entendre parler, mais c'est assez unique à chacun, raconte-t-il dans le 6e et dernier épisode du mythe Startup. Dans l'immédiat, il a dû renoncer à des sorties ou à des biens matériels. Changer sa garde-robe ou prendre une bière le samedi soir pouvait soudainement attendre quand chaque dollar comptait. Lorsque tu retombes à un faible salaire ou à pas de salaire du tout, tu n'as pas le choix de revoir les priorités, fait-il remarquer. De la vie de la plupart des entrepreneurs, le plus grand sacrifice est cependant humain. Simon explique qu'il est parfois difficile d'être sur la même longueur d'onde que ses proches, qui se demande pourquoi il a renoncé aux avantages d'un emploi stable ou ce qui l'oblige à travailler à son entreprise un vendredi soir, par exemple. Quant à la start-up, ton projet, ça devient central et tu ne peux pas prendre ça à la légère, dit-il. Tu fais juste me décourager. Les sacrifices des jeunes entrepreneurs constituent bien souvent un sujet tabou dans le monde de l'entrepreneuriat. Les histoires d'entrepreneurs à succès qui tentent de révolutionner le monde remplissent les pages des journaux, y compris Le Devoir, mais le revers de la médaille fait rarement les manchettes. Je l'ai vu autour de moi. Ça a détruit des couples, ça a détruit des familles. Des finances personnelles ont été ruinées aussi. Faut donc sérieusement y réfléchir
souligne Marc-Antoine Ducas, président de la compagnie Netlift, qui a été le mentor de plusieurs entrepreneurs québécois. La directrice générale de la Fondation Montréal Inc., Liette Lamonde, a également pu constater à quel point l'entrepreneuriat peut creuser un fossé entre un entrepreneur et sa famille. Une jeune femme m'a même raconté qu'elle avait dit à sa mère « Là, maman, je te parlerai pas pour les 6 prochains mois parce que je suis en train de lancer une entreprise et que ça me tient à cœur. Tu comprends pas ce que je fais et chaque fois que je t'en parle, tu fais juste me décourager et j'ai pas besoin de ça. » L'accumulation du stress, qu'il soit de nature financière ou autre, peut avoir de graves conséquences sur certains entrepreneurs. Un sondage dévoilé en début d'année par le regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec indique que 71,5% des entrepreneurs interrogés ont dit faire face à un niveau élevé de détresse psychologique et que ceux et celles qui sont en affaires depuis moins de 5 ans sont les plus touchés. Selon l'étude, 11,1% des entrepreneurs souffrent de dépression modérée et 6,6% de dépression sévère. Cela peut paraître élevé puisque, à titre indicatif, 12,2% de la population québécoise souffre d'un épisode dépressif au cours de sa vie, souligne le regroupement des chambres de commerce. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces résultats, mais le sondage offre quelques indices. 43% des entrepreneurs interrogés travaillent plus de 50 heures par semaine et moins du tiers d'entre eux prennent plus de 2 semaines de vacances par année. Cette étude met en lumière un aspect trop peu connu de l'entrepreneuriat, a déclaré en janvier le PDG du regroupement des jeunes chambres, Moncef Deraillé, en insistant sur l'importance de briser l'isolement des entrepreneurs. Il est temps de prendre au sérieux une telle problématique et de tenter d'y apporter des solutions. Alors c'est un mythe déboulonné, si on peut dire ainsi, par Carl Rettino-Paraselli, le Devoir du 7 juin 2018, et je vous rappelle que cette série sur les start-up fait l'objet d'un balado qui a été produit par le Devoir.
On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur. Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur. Pas peur de travailler, marre d'être mal payé. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur. 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place. Les heures sup, ça nous connaît. On n'a pas le choix et on les fait. Mais qui a voté pour travailler plus? Pour gagner plus? J'ai pas décidé de travailler plus. Pour gagner. Je pensais que le monde allait changer. Que le temps libre, être libéré, avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer. Que nos conneries nous avaient raisonné. Que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice. Y'a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je l'ai bien vu le gros bateau qu'a acheté mon patron. Moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. Travailler plus pour gagner plus. J'ai pas décidé de travailler plus. Je pensais avoir milité pour une augmentation. Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions. Le vendredi après-midi, je faisais les commissions. Et le samedi et dimanche, je m'occupais des rejetons. Je pensais avoir milité pour d'autres horizons. Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion. En vacances, hors de France, le boss et mon patron ont décidé que les heures sup seraient ma destination. Je pense qu'un jour on va tous y venir. Le moment fatal de devoir réfléchir. Si l'homme et le travail sont unis à en mourir. Si comme des ânes on va bosser et ne rien dire. Je pense que le boss passe bien à la télé. Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées. Que le temps, le vent, les amis, l'écologie font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi de travailler plus pour gagner plus. On n'a pas voté pour travailler plus.
Trio, la chanson « Travailler plus ».
Alors, comment prévenir le cancer? Donc, comme vous vous en doutez, on revient à Québec Science et à ses 50 questions posées à Google. En moyenne au Québec, toutes les 10 minutes, quelqu'un apprend qu'il est atteint d'un cancer et toutes les 24 minutes, quelqu'un en meurt. Cette phrase qu'on peut lire sur le site de la Fédération québécoise du cancer permet de saisir l'ampleur du fléau. Au cours de sa vie, un Canadien sur deux sera atteint d'un cancer et cette affection est désormais la première cause de mortalité dans de nombreux pays. Est-ce pour autant une fatalité? En partie seulement. En résumé, le cancer est causé par une accumulation de mutations génétiques au sein d'une cellule due à l'âge, au hasard ou à certains facteurs environnementaux qui conduisent à une prolifération cellulaire incontrôlée. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, de 30 à 50 % des cas de cancer sont évitables à condition d'agir sur certains facteurs de risque. Alors, on va en regarder quelques-uns de ces facteurs de risque. Le tabagisme. La cigarette demeure dans le monde le facteur de risque le plus important, responsable d'environ 22 % du total des décès dus au cancer. Au Canada, le cancer du poumon, principalement dû au tabac, représente 14 % de tous les nouveaux cas de cancer. L'alcool. Environ 5 % des cas de cancer sont attribuables à la consommation d'alcool. Prendre en moyenne un verre d'alcool par jour augmente le risque de décès lié au cancer de la cavité buccale et du pharynx de 42 % et prendre deux verres par jour augmente ce risque de 96 %, rappelait l'organisme Éduc'alcool en mars 2018, précisant toutefois que les risques absolus de développer ces cancers restent faibles. Le surpoids et l'obésité, un autre facteur. Il existe un lien avec de nombreux types de cancers, tels ceux de l'œsophage, du côlon, du rectum, du sein, de l'endomètre et du rein, rappelle l'OMS, en lien avec le surpoids et l'obésité. Le régime alimentaire. On a fait l'exercice. En 4 minutes de recherche sur Google, on a dénombré 25 aliments anticancéreux, aussi divers que l'ail, les champignons, les courges ou le vin rouge. Le web a beau foisonner de conseils sur les régimes à adopter pour prévenir le cancer, peu d'entre eux reposent sur des études scientifiques. Faut dire qu'il n'est pas facile d'établir un lien entre un aliment précis et la protection contre le cancer, car la carcinogénèse est complexe et s'étale sur de nombreuses années, et que l'alimentation est par définition variable. Il existe tout de même un certain consensus. Alors qu'une diète riche en fruits et légumes est associée à un risque moindre de cancer, la consommation excessive de viande rouge, de charcuterie et d'aliments trop salés est associée à un risque accru de cancer colorectal. Enfin, notons que les compléments alimentaires à base de bêta-carotène, pourtant souvent présentés comme anticancéreux, peuvent à forte dose augmenter le risque de plusieurs cancers, en particulier chez les fumeurs. Un autre facteur, le manque d'exercice. La pratique d'une activité physique régulière réduit le risque relativement à plusieurs cancers, notamment ceux du côlon, du sein, du poumon et de l'endomètre. Certaines infections. Dans le monde, 22 % des décès par cancer sont dus à des agents infectieux, en particulier les virus de l'hépatite B et C et le papillomavirus. Dans les pays développés, ce pourcentage chute à 6 %, notamment grâce à la vaccination. Enfin, le dernier et non le moindre, l'environnement. La pollution de l'air, de l'eau et des sols est en cause dans 1 % à 4 % de tous les cancers, selon l'OMS. Alors, c'est un autre article de Québec Science, juin 2018.
We'll be right back.
Alors, on s'en va du côté de la technologie. On n'en avait pas encore parlé au cours de cette émission et vous savez, c'est mon sujet de prédilection. Alors, je vous parle d'une application et ensuite d'un haut-parleur intelligent. D'abord, l'application qui consiste à jouer et devenir astronaute. En fait, ces deux sujets sont présentés dans la presse plus du 3 juin 2018. Alors, en ce qui concerne l'application pour devenir astronaute, c'est Alexandre Vigneault qui nous en parle. S'entraîner pour devenir astronaute n'est plus le privilège d'une poignée d'élus. Une société finlandaise a en effet conçu un jeu qui pourrait vous ouvrir la porte des étoiles. Sérieusement, Space Nation Navigator propose en effet un plan de formation visant à préparer son corps, son esprit et ses aptitudes sociales à l'aide de jeux questionnaires et d'un programme d'entraînement physique. Cette application est aussi le premier pas vers le Space Nation Astronaut Program, une compétition internationale qui se tiendra en 2019 et au terme de laquelle un candidat va remporter un voyage dans l'espace, a affirmé le président Space Nation dans un communiqué. Alors, est-ce que ça vous intéresse, Mathieu, un voyage dans l'espace?
Oui. Oh, bon. Oui, j'aimerais bien.
Bon, alors, procurez-vous l'application et allez-y, vous avez encore le temps de vous préparer. Alors, deuxièmement, un haut-parleur intelligent. Alors, cette fois, c'est Karim Benassaï qui nous en parle, toujours dans la presse plus du 3 juin 2018. En fait, la version gonflée aux hormones du haut-parleur intelligent de Google, le Google Home Max, est arrivé au Canada à la mi-mai. Il est conçu pour offrir une expérience sonore incroyable. Il combine intelligence et puissance. Alors, Karim Benassaï l'a passé en audition. Et il conclut très fort, ce Max. Ce qu'il a aimé, contrairement à ses deux petits frères, qui sont des assistants vocaux qu'on peut utiliser pour écouter de la musique, le Google Home Max est d'abord un haut-parleur haut de gamme. Et il est puissant, croyez-nous, dit-il, 20 fois plus que le Google Home, avec une basse riche et enveloppante. La définition sonore est bonne grâce à ses quatre haut-parleurs intégrés. L'appareil analyse lui-même son environnement pour adapter sa sortie sonore, une nouvelle technologie que Google a baptisée le Smart Sound et qui est basée sur l'intelligence artificielle. Il a fallu, pour le sentir en détresse et grésiller, monter le volume jusqu'à 90%, un niveau où on sentait que les voisins étaient au bord de l'apoplexie. Pour le summum de l'installation, on peut apparier deux Google Home Max pour obtenir de la stéréophonie. Évidemment, ça commence à coûter cher. Ce qui est plus accessible, c'est d'intégrer le Max à l'environnement Google. On peut donc envoyer la même chanson sur tous les appareils de la famille en même temps, du Chromecast Audio au Mini en passant par le Home Standard. On l'a fait, c'est plutôt amusant, et le fait qu'il n'y ait aucun décalage entre les appareils est une petite performance technologique. On ne s'attardera pas longuement sur les fonctions intelligentes du Max, puisqu'elles sont les mêmes que celles que nous avons précédemment décrites, à part la nouvelle possibilité de créer une paire stéréo. On peut donc ordonner le lancement d'une chanson, obtenir les nouvelles, la météo, les prochains rendez-vous, éteindre et allumer une foule d'appareils, élaborer une liste d'épiceries, poser des questions sur à peu près tous les sujets. Il s'agit évidemment du même cerveau qui équipe tous les appareils Google et leur capacité de reconnaissance vocale, surtout en français québécois, est inégalée sur le marché. Ah oui, on peut aussi lui demander des blagues ou des jeux et déclencher le lancement d'une vidéo sur le Chromecast Ultra ou toute télé équipée d'Android TV. Pour le choix de la musique, les commandes vocales fonctionnent environ 3 fois sur 4. Pour plus de précision, on peut effectuer la recherche sur un téléphone ou une tablette et envoyer par la suite la lecture sur le Max. Cette possibilité vous est refusée avec Apple Music, mais on peut se rabattre sur une solution assez simple, appareiller le Max à son téléphone en Bluetooth. Côté design, il est plutôt joli avec une surface en forme de patinoire. On le trouve en 2 couleurs neutres, craie et charbon. Dernier détail qu'on apprécie, la nouvelle façon de gérer le volume pour laquelle on a placé une ligne encrochée sur le dessus. Elle est beaucoup plus précise que la première formule retenue par le Google Home il y a 2 ans.
Alors évidemment, il n'y a pas que des qualités. On aime moins. Le Max, c'est un appareil plutôt costaud parce qu'il pèse 5 kg, pas très discret avec ses 33 cm de front pour une hauteur de 19 cm. Côté son, nous avons qualifié sa définition sonore de bonne, mais elle n'a rien d'exceptionnel. Il s'agit d'un haut-parleur puissant, mais qui ne se démarque pas par sa finesse. À ce chapitre et dans cette gamme de prix, il est manifestement en avance cependant. Alors donc, c'est le jugement que porte Karim Bessanaï sur ce Google Home Max dont il a parlé dans la presse plus du 3 juin et qui est disponible ici pour ceux qui seraient intéressés au prix de 449 $. Quand même! Alors, pour finir, une question qu'on pose des fois autour de la machine à café, comme on dit. Combien de temps dure un rhume ou une grippe? Commençons par une mise au point. Le rhume et la grippe sont deux maladies différentes causées par des virus différents, surtout des rhinovirus dans le premier cas, des virus de la grippe aussi appelés influenza dans le second. Les symptômes se ressemblent, congestion nasale, toux, fatigue, mais la grippe est généralement plus intense. Elle débute brutalement, entraîne souvent des maux de tête, une fièvre élevée, des frissons, des courbatures et une sensation de malaise général. Elle est nettement moins fréquente que le rhume. Cela dit, il n'est pas toujours simple de distinguer ces deux infections. La plupart du temps, le rhume dure de 3 à 7 jours, même si certains symptômes comme la toux ou les sécrétions nasales peuvent persister 2 semaines. Pas étonnant quand on sait qu'il existe près de 200 virus responsables du rhume et qu'un adulte en attrape facilement de 2 à 6 par année. Chez les enfants de moins de 2 ans, c'est plutôt 8 à 10. La grippe, elle aussi, s'estompe en général au bout de 3 à 7 jours, mais la toux et la fatigue se prolongent souvent 2 ou 3 semaines. Quant à la croyance populaire selon laquelle le fait de prendre froid cause le rhume, la communauté scientifique la réfute, aucune étude n'ayant pu prouver la chose clairement. Quelques chercheurs affirment néanmoins que le froid diminue la réponse immunitaire aux infections, du moins chez la souris. En 2005, un chercheur britannique a demandé à 180 volontaires de plonger leurs pieds dans les bols d'eau glacée pendant 20 minutes. Quelques jours plus tard, ils étaient 29 % à rapporter des symptômes de rhume contre 9 % de ceux dont les pieds étaient restés chauds. Selon l'auteur, avoir froid aux pieds entraînerait une constriction des vaisseaux sanguins, y compris dans le nez, ce qui diminuerait la quantité de globules blancs présents pour faire rempart au virus. Une théorie qui, toutefois, est loin de faire l'unanimité. Alors, c'était évidemment rapporté dans Québec Science, juin 2018. En parlant de science, en terminant, je vous invite en fin de semaine à un festival et non pas la F1, un festival scientifique Eureka. C'est dans le Vieux-Port, c'est gratuit.
C'est vrai.
Alors, c'est vraiment extraordinaire. Il y a plein de kiosques et évidemment, on parle science, science et science, mais de façon très, très vulgarisée. Alors, ça termine l'émission. Merci beaucoup, Mathieu. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Et on se revoit la semaine prochaine. Alors, j'imagine en compagnie de mes collègues Hélène et Catherine Emmanuel, que je salue en fin d'émission. Alors au revoir, bon week-end ensoleillé.